Histoire de la Réformation en Europe au temps de Calvin, livre 3, chapitre 9. La Réformation commence à fermenter dans Genève et l'opposition au dehors. Avril 1529 à janvier 1530. Désordre et superstition dans Genève. Discours des Corsins à Saint-Gervais. Les âmes du purgatoire sur le cimetière. Protestation à Saint-Gervais. Réforme négative. Représentation de l'évêque. Les Genevois se confient en Dieu. Les cantons se refroidissent à l'égard de Genève. Les Suisses proposent la rupture de l'alliance. Refus énergique des Genevois. Ils penchent toujours vers la réforme. Gasini demande une audience au pape. Son discours sur Genève et la Savoie. Réponse du pape. Lettre de Charles Quint aux Genevois. L'empereur et le pape s'unissent contre Genève. Tandis que les hommes des temps anciens prenaient peur et reculaient, les hommes des temps nouveaux prenaient courage et avançaient. Ils s'asseyaient dans Genève au coin du feu des bourgeois. Ils y entamaient des conversations religieuses. Ils répandaient peu à peu de nouvelles idées dans la ville et de nouvelles semences dans les cœurs. Ces luthériens, comme on les appelait, étaient les uns genevois, les autres bernois, et le spirituel Bonivard se mêlait quelquefois à leurs entretiens. Quelques-uns, hommes vraiment pieux, disaient à ceux qui les écoutaient qu'ils devaient attendre leur salut uniquement de la croix, mais que de même que le soleil transforme la terre et lui fait porter des fruits, la grande lumière évangélique devait transformer leur cœur et les porter à faire des œuvres nouvelles. Mais d'autres hommes, négatifs, sarcastiques, s'appliquaient uniquement à signaler les abus de Rome et de son clergé. Ils disaient hautement ce qu'on avait osé dire jusqu'alors qu'en secret. S'ils voyaient passer un cordelier d'une face rubiconde, longue barbe, robe brune et aspect dégoûtant, ils le montraient du doigt. Ces hommes, disaient-ils, ne s'insinuent pas seulement dans les consciences des citoyens, mais dans leurs maisons et dans leurs lits et souillent la ville de leurs infamies et de leurs adultères. À peine à force de treillis, à force de barreaux, pouvons-nous repousser leurs vices effrénés et sauver la pudeur de nos femmes et de nos filles. Dieu les a livrés aux convoitises de leur cœur. Les conversations entre les Genevois et les Bernois se renouvelaient sans cesse pendant les années qui s'étendirent de la Réformation de Berne à celle de Genève. Quand un Genevois avait invité à sa table un Suisse, il lui montrait volontiers après dîner les curiosités de la ville. « Venez, disait-il, entrons d'abord dans l'église de Saint-Pierre. Voyez, c'est une belle cathédrale. Admirez ses colonnes, ses voûtes, ses arceaux. Mais il y a bien autre chose. Voici une châsse où l'on garde un trésor inestimable. » C'est le bras de Saint-Antoine. On l'offre dans les jours de fête à l'adoration des fidèles qui baisent cette relique avec un saint respect. Mais, ajoutait le Genevois en parlant à l'oreille de son interlocuteur, ce bras de Saint-Antoine n'est, à ce qu'assurent quelques-uns, qu'une partie du corps d'un cerf, une relique digne de Priape. Suivez-moi au grand hôtel. Vous voyez la châsse où l'on conserve la cervelle de Saint-Pierre ? En douter est une effroyable hérésie et ne pas l'adorer est une abominable impiété. Mais, soit dit entre nous, cette cervelle de l'apôtre est une pierre ponce. Quelquefois, Suisse des Genevois passaient le fleuve et montaient la rue qui conduit à l'antique église de Saint-Gervais. « Que font ces bonnes vieilles femmes qui mettent l'oreille à ce trou ?» disait l'un d'eux. Il y avait en effet là des femmes et des prêtres assemblés. Les corps de Saint-Gervais, de Saint-Nazaire, de Saint-Cels, de Saint-Pantaléon, disaient les prêtres aux femmes, sont ensevelis sous cet autel. Ces corps saints désirent sortir de ce caveau. Venez, mettez ici votre oreille, vous les entendrez. Les bonnes femmes s'approchaient et entendaient en effet un certain bruit, comme feraient des hommes qui parlent entre eux. Nous les entendons, disaient-elles. Hélas, continuaient les prêtres, pour relever un corps saint, il faut avoir des évêques, des pompes, des instruments d'argent, et nous n'avons rien. Aussitôt, désirant délivrer ces saints personnages, les bonnes femmes jetaient leur offrande dans le tronc. Et les prêtres les recueillaient. « Savez-vous, disaient quelques huguenots, les incrédules prétendent que le bruit provenant, à ce qu'on nous dit des conversations de Saint Pantaléon et de ses amis, viennent simplement de certains tuyaux artistiquement arrangés par les prêtres et qui, au moment où le trou est ouvert et où le vent y entre, rendent le son que l'on entend. Avez-vous jamais vu des âmes du purgatoire ?»« À Genève, rien de plus facile, disait après souper un huguenot. La nuit est tombée, allons au cimetière et je vous en montrerai. Nous y voici. Voyez-vous ces petites flammes qui se traînent lentement çà et là au milieu des ossements épars ? Ce sont des âmes, disent les prêtres, qui, ayant quitté la demeure de leur angoisse, se traînent lentement de nuit sur les cimetières et conjurent leurs parents de payer aux prêtres des messes et des prières qui les tirent de l'ignis purgatorius. Attendez, en voici une qui s'approche de nous. Je vais la délivrer. Il se baissait, la ramassait, la montrait à ses compagnons. Oh, vraiment, ces âmes sont singulièrement faites. Ce sont des écrevisses sur le dos desquelles les prêtres ont fixé des chandelettes de cire. Telle est l'industrie de nos clercs, disaient quelques savants huguenots. Bonivard prenait souvent part à ces conversations. Ils sont dans les repas des bouffons, dans les discussions difficiles, des bêtes. En fait de travail, ils sont des limaçons. En fait d'exaction, des harpies. En fait d'amitié, des léopards. En fait d'orgueil, des taureaux. En fait de manger, des minotaures. Et en fait de ruse, des renards. Les Genevois n'en restèrent pas là. Un jour, c'était le mardi 4 janvier 1530, que plusieurs huguenots étaient réunis et que toutes les reliques et impostures des prêtres avaient fait le sujet de la conversation, quelques-uns d'entre eux, habitants de Saint-Gervais, indignés des fraudes du clergé qui métamorphosaient des corps saints en mines d'or, résolurent de protester contre ces abus. Ils sortent en bon nombre, parcourent les diverses rues de Saint-Gervais, s'arrêtent à certaines places, convoquent de la manière accoutumée les citoyens et, entourés d'une grande foule, ils font, dit le registre du conseil, des criers non accoutumés en matière de dérision. Peut-être mirent-ils les corps à l'enchère, quoi qu'il en soit, on les mit, eux, en prison. Cette scène avait fort amusé les habitants du faubourg. Les vieilles superstitions craquaient dans Genève et s'écoulaient aux acclamations du peuple. Les huguenots réclamaient le droit d'examen et voulaient que l'intelligence humaine fût pour quelque chose dans l'homme. Ces essais de liberté qui épouvantaient l'Église ravissaient les citoyens. Quelques habitants du faubourg, animés de sentiments généreux, vinrent en grand nombre à la maison de ville. « Nous demandons qu'on relâche les prisonniers, » dirent-ils au syndic, « et nous offrons d'être caution pour eux. » Les magistrats tenaient encore pour l'ancien ordre des choses. « Messieurs, » dit le premier syndic, « je dois vous faire de sévères remontrances sur vos mutineries. Nous ne voulons ni tumulte ni sédition. Que les parents des prisonniers viennent demain en conseil et nous les écouterons. » Le 9 janvier, le conseil des 200 décréta de pardonner aux prisonniers de Saint-Gervais, mais de leur dire que cette folie, s'ils en faisaient encore une autre, leur serait comptée pour deux. Le commencement de la réforme eut à Genève un caractère négatif. Partout au XVIe siècle, on sentait un besoin de penser, de juger. Les Genevois, plus que d'autres, voulaient réformer les abus que des usurpations successives avaient introduites dans l'ordre civil. Comment n'eussent-ils pas réclamé aussi la réforme des abus introduits dans l'ordre religieux ? Ce n'était pas seulement des griefs isolés, des vexations locales, c'était la papauté elle-même que cette réforme devait atteindre. Cette marche qui semblait naturelle n'est pourtant pas la meilleure. L'extérieur, c'est-à-dire le gouvernement, le culte, les pratiques, ne sont pas l'essentiel dans le christianisme. C'est l'intérieur qui l'est, c'est-à-dire la foi aux doctrines de la parole de Dieu, la transformation du cœur, la vie nouvelle. Quand on veut réformer un homme vicieux, l'important n'est pas de lui ôter ses habits sales et de laver les taches de sa figure, c'est sa volonté qui doit être transformée. À Wittenberg, la réformation commença dans la personne de Luther par l'intérieur. À Genève, elle commença dans les huguenots par l'extérieur. Ceci serait un grand désavantage si, sous l'inspiration de Calvin, la religion n'était pas devenue à Genève aussi intérieure qu'en Allemagne. La réforme genevoise eût péri si elle eût gardé le caractère qu'elle prit d'abord. Mais la tendance que nous venons de signaler fut une utile préparation pour amener cette transformation qui réalise la grande parole du Christ, « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous ». L'évêque qui se tenait dans ses bénéfices de Bourgogne ne voulait pas de réforme ni au-dedans ni au-dehors. Il fut épouvanté de ce qui se passait à Genève. Et, se voyant incapable d'arrêter lui-même le torrent qui semblait devoir emporter sa mitre et sa principauté, il se plaignit au duc, à l'empereur et au syndic même. Le 8 août, un député de Monseigneur parut au conseil et commanda de sa part qu'on se déportât de ce qu'on avait commencé et qu'on envoyât des ambassadeurs à Charles Quint qui remettraient tout en bon ordre. En octobre, l'évêque, indigné de ce que l'on ne tenait aucun compte de ses plaintes, fit de nouvelles réclamations pleines d'aigreur et de menaces. Il donna à entendre qu'il ruinerait Genève plutôt que de permettre qu'on y réformât les abus. Ces lettres furent lues au conseil. Le contenu en fut communiqué aux citoyens, menacés de la colère du duc, du pape, de l'empereur, et réduits à la plus grande faiblesse. Que feront-ils ? Genève, disent-ils, est en danger d'être détruite. Mais Dieu nous garde, mieux vaut la guerre avec la liberté que la paix avec la servitude. Ne nous confions pas au prince, et qu'à Dieu seul soit la gloire et l'honneur. Avec une telle confiance, les peuples ne périssent pas. Genève en avait besoin. Ses ennemis disaient que de puissantes révolutions étaient à la porte, qu'elles avaient commencé en Saxe, mais que là, du moins, elles n'avaient pas touché à l'ordre politique, que dans cette ville des Alpes, au contraire, la révolution civile marchait avec la révolution religieuse. Les Suisses commençaient à s'ennuyer de cette cité si faible et pourtant si obstinée, qui n'avait pas assez de bras pour se défendre et trop de fierté pour se soumettre. Travaillés, excités par le duc, ils résolurent de demander la rupture de l'alliance. Cette nouvelle répandit la consternation dans la ville. « Ah, dirent les Huguenots, si les brebis renonçaient aux chiens, les loups les auraient bientôt dispersés. » Et sans attendre que cette funeste résolution leur fût signifiée, les patriotes tendirent les mains vers cette Suisse dont le duc voulait les séparer, et s'écrièrent « plutôt mourir ». Mais en même temps, quelques mamelouks cachés qui se trouvaient encore dans la ville, croyant que c'était le moment de la fin, se hâtèrent de joindre l'armée ducale. En effet, la fin semblait s'approcher. Le 1er mai, une ambassade imposante des 5 cantons de Zurich, Bâle, Soleure, Berne et Fribourg arriva dans Genève et fut bientôt suivie des délégués de Savoie. Les Genevois voyaient d'un œil étonné les Suisses et les Savoyards marcher ensemble dans leurs rues, se prodiguer les uns aux autres des marques de courtoisie et regarder les Huguenots d'un air hautain. Quoi ? Les enfants de tels donnent la main à leurs oppresseurs ? Les pensées des citoyens se troublaient. Ils se demandaient s'il pouvait y avoir quelque participation entre la liberté et le despotisme. Il leur fallut boire la coupe jusqu'à la lie. Le 22 mai, l'ambassade parut devant le conseil. C'était Sébastien de Diebach, fier bernois, magistrat éminent, diplomate distingué et guerrier redoutable, qui était chargé de prendre la parole. Il affecta de ne point appeler combourgeois les citoyens de Genève, demanda nettement la révocation de l'alliance et proposa une paix qui y sacrifiait au duc l'indépendance des Genevois. En même temps, il ne leur laissa point ignorer que les Suisses n'étaient point seuls de leur avis, que les grandes puissances de l'Europe prenaient une mesure générale. En effet, François Ier, changeant de politique, appuyait les demandes du duc son oncle et déclarait qu'en cas de refus, il unirait les armes de la France à celles de la Savoie. Charles Quint était tout prêt à se dédommager de l'impuissance où il était de détruire les protestants de l'Allemagne, en se donnant le plaisir d'abattre cette petite ville orgueilleuse. Le roi de Hongrie même envoya à Genève un ambassadeur dans l'intérêt savoyard. « Ce petit coin de terre prétendra-t-il rester libre quand l'Europe est décidée à l'écraser de son talon ?» Tandis que les princes puissants qui entourent les Genevois chancellent entre des opinions contraires, qu'on ne saurait dire souvent si Charles est pour le pape ou contre le pape, si François est pour les protestants ou contre les protestants, ces hommes de fer n'ont qu'une idée, la liberté. La liberté dans l'État et la liberté dans l'Église. Les Huguenots se montraient résolus et tenaient la tête levée en présence des ambassadeurs. « Messieurs, disaient les sires de Lucé, de Mézère et autres, prenez-y garde. Nous emploierons d'abord contre la ville rigueur de justice. Mais si cela ne suffit pas, rigueur de guerre. Tandis que si vous restituez au duc ses anciens privilèges, il vous pardonnera tout et garantira les libertés de Genève. » « Oui, ajoutaient les Suisses, sous peine de 10 000 écus s'ils faisaient le contraire. Mais, chose merveilleuse, dit un contemporain, tant plus les ambassadeurs donnaient craintes et menaces, tant plus les Genevois étaient fermes, constants et criaient « plutôt mourir ». Le 23 mai, le sire de Diebach proposa au Conseil des 200 la rupture de l'Alliance, et le lendemain, le Conseil général ayant été convoqué, le premier syndic, sans se perdre dans des explications sans fin, répondit nettement aux députés des cantons « Très honoré Seigneur, l'alliance avec les ligues n'ayant pas été faite à la chaude, nous espérons en Dieu et dans le serment que vous nous avez prêté qu'elle ne sera jamais rompue. Quant à nous, nous sommes décidés à tenir le nôtre. » Alors le magistrat se tourna vers le peuple et dit « Je propose que quiconque parlera d'annuler l'alliance avec les Suisses, la tête tranchée sans aucune grâce, et que quiconque aura connaissance de quelque intrigue tramée contre cette alliance et ne la révélera pas, reçoivent 3 traits d'estrapade. Le Conseil général vota cette proposition à l'unanimité. Diébach et ses collègues étaient confondus et se regardaient émerveillés. « Monsieur de Savoie ne nous a-t-il pas assuré, disait-il, que sauf 25 à 30 citoyens, tout le peuple était en sa faveur ? Et moi je sais, leur dit un personnage étranger, dont le nom ne nous a pas été conservé, que si l'alliance eût été rompue, le duc entrait dans Genève et coupait la tête à 32 citoyens. « Venez, dirent aux Suisses les hommes les plus considérés dans Genève. » Et ils étalèrent leur parchemin sous les yeux des ambassadeurs, leur prouvant ces documents en main qu'ils étaient libres de contracter alliance avec les cantons. Les députés de Berne, Fribourg, Zurich, Bâle et Soleur ordonnèrent qu'on apprêtât leurs chevaux. Quelques huguenots s'assemblèrent dans la rue où ils demeuraient, et au moment où les seigneurs bernois montaient en selle, ils leur crièrent « Plutôt raser la ville, plutôt voir tuer nos femmes, nos enfants et nous-mêmes, que de consentir à rompre l'alliance. » Diébach, en rendant compte à Berne de sa mission, trouva moyen de voiler un peu sa défaite. « Il y avait 1000 hommes à ce conseil général, dit-il, c'était une exagération. Un seul a protesté, il voulait parler du président, ne pas vouloir rompre l'alliance, sur quoi tous les autres se sont mis à l'unisson. Ne savait-il donc pas qu'il suffit qu'une proposition soit présentée par un seul pour qu'elle soit votée par tout un peuple ? Un esprit nouveau, inconnu de leurs ancêtres, commençait alors à animer plusieurs jeunes voix. La mission de Abhofen n'avait pas été inutile. À côté d'un bon nombre de personnes, que l'on appelait, il est vrai, du nom de Luther, mais pour qui l'essentiel était de ne pas faire maigre en carême, de ne pas faire des signes de croix au service divin, il y en avait qui voulaient recevoir la parole de Dieu et la suivre. Le clergé romain le comprenait. « Si les Genevois tiennent tant aux Suisses, disaient les prêtres dans leur réunion, c'est pour professer librement l'hérésie. S'ils y parviennent, on verra peut-être la Savoie, Aoste, d'autres contrées de l'Italie, se réformer d'eux-mêmes. » Le duc, décidé à éteindre ces flammes menaçantes, résolut de réclamer l'influence du pape, ses trésors, même ses soldats, car le vicaire de celui qui a défendu de tirer l'épée à des soldats, Clément VII, d'ailleurs, était l'un des plus habiles politiques de l'époque, et ses conseils pouvaient être fort utiles. Pierre Gasini, évêque d'Aoste, étant alors à Rome, la cour de Turin chargea ce zélé ultramontain de faire connaître au pape ce qui se passait à Genève. Gasini demanda à Clément une audience et, ayant été introduit par le maître des cérémonies, le 11 juillet 1529, il s'approcha du pape qui était assis sur son trône avec les démonstrations accoutumées, se prosterna, lui baisa les pieds et, s'étant relevé, il lui exposa toutes les occurrences commises par les luthériens à Genève et dans les vallées de la Savoie. « Ô Saint-Père, dit-il, les dangers de l'Église sont imminents et nous sommes remplis des plus vives craintes. C'est de la Bourgogne supérieure et du comté de Neuchâtel que cette maudite secte est venue à Genève. Et maintenant, hélas, que de maux elle y a fait. Déjà l'évêque n'ose plus demeurer dans son diocèse. Déjà le carême est supprimé et les hérétiques mangent de la viande tous les jours. Bien plus, on lit des livres défendus, le Nouveau Testament. » Et le Genevois met tant de prix à ses écrits qu'il refuse de les livrer même pour de l'argent. Ces misérables hérétiques font un mal extrême. Et ce n'est pas à Genève seulement. Aoste et la Savoie seraient déjà absolument pervertis si son Altesse n'avait fait décapiter 12 gentilshommes qui y semaient ses dangereuses doctrines. Mais cette salutaire rigueur ne suffit pas pour arrêter le mal. Quoique son Altesse ait défendu sous peine de mort de parler de cette secte et de ses dogmes abominables, il ne manque pas de méchants babillards qui vont répandant partout ces maudites doctrines dans ces domaines. Ils demandent que son Altesse n'est pas leur roi. Ils demandent avec véhémence, alléguant les grandes dépenses de la guerre, que l'on vende le peu de biens ecclésiastiques que nous possédons. Le duc, mon seigneur et mon maître, fait détruire partout cette secte maudite. Il est le boulevard qui lui ferme l'entrée de l'Italie. Et il rend ainsi à votre sainteté les services les plus signalés. Mais nous avons besoin de votre secours. » Gasini ajouta à ce discours la demande d'un subside. Clément VII l'avait écouté avec une grande attention. Il paraissait comprendre les maux et les périls que l'évêque d'Aoste lui avait signalés, et les dignitaires et autres prêtres qui l'accompagnaient en semblaient plus affectés encore. Très versé dans les questions philosophiques et théologiques, doué d'une perspicacité qui pénétrait jusqu'au fond dans les affaires les plus difficiles, le pape vit le danger qu'il y aurait à ce que l'hérésie trouva dans le Midi, à Genève, un foyer qui pourrait bien devenir plus pernicieux que Wittenberg même. Il sentit aussi la nécessité d'avoir un prince zélé, catholique, pour garder les versants français et italiens des Alpes. Ce pontife, le plus malheureux peut-être de tous les papes, voyait la réformation se développer sous ses yeux en Europe sans qu'il lui fût possible de l'arrêter, et tout ce qu'il faisait pour la combattre ne servait au contraire qu'à la répandre davantage. Maintenant, toutefois, on lui parlait selon son cœur. Il voulait empêcher que Genève ne se réformât, qu'une forteresse de la papauté ne passât à l'ennemi, et un prince puissant s'offrait pour y pourvoir. Clément accueillit donc avec une grande bonté l'ouverture de Casini. Toutefois, il était mal à l'aise. Il y avait dans le discours de l'empereur piémontais un mot seulement qui l'embarrassait, le subside. En effet, il en était encore à se relever du sac de Rome. Clément VII répondit « Je regarde son Altesse comme mon plus cher fils, et je la remercie pour son zèle, mais quant à de l'argent, il m'est impossible d'en donner à cette heure, vu la ruine de mon trésor. » Puis, invoquant les besoins de l'Église et le devoir des princes, qui devaient être prêts à sacrifier pour elle leurs biens, leurs sujets, leur vie, le pape ajouta « Je supplie le duc d'avoir surtout l'œil sur Genève. Cette ville se luthéranise beaucoup trop, et il faut la dompter à tout prix. » Casini, reconduit aux portes du palais par les officiers pontificaux, regrettait fort d'avoir échoué quant aux subsides. Cependant, son but principal était atteint. La papauté était avertie. Elle veillerait sur Genève comme un général sur l'ennemi. Le pape étant gagné, il fallait maintenant entraîner l'empereur. Ceci était plus facile au duc. Charles Quint était son beau-frère. L'impératrice et la duchesse de Savoie, qui étaient sœurs, et l'une et l'autre fort dévouées à Rome, pouvaient s'écrire sur ce sujet. La protestation faite à Spire par les princes évangéliques, en avril 1529, avait vivement irrité le monarque. Aussi se préparait-il, selon le serment qu'il avait prêté à Barcelone, à appliquer un antidote convenable à la maladie pestilentielle dont la chrétienté était atteinte. Quand on lui parla de Genève, il le trouva d'abord bien éloigné. Cependant, cette ville était impériale. Il résolut de la comprendre dans son plan de campagne et se décida à faire immédiatement une première démarche pour la ramener à la papauté. Le 16 juillet 1529, l'empereur dicta à son secrétaire la lettre suivante, adressée au syndic genevois. « Fidèles amis, nous avons appris que plusieurs prédicateurs tiennent des assemblées particulières et publiques dans votre cité et sur les pays frontières, qu'ils propagent les erreurs de Luther et que cela est toléré par vous. Ces pratiques causent à l'Église le plus notable détriment et la majesté pontificale, aussi bien que la dignité impériale, se trouve gravement insultée par votre conduite. » C'est pourquoi nous vous ordonnons de faire saisir les 10 ministres et de les faire punir selon la teneur des édits les plus sévères. Ce faisant, vous arracherez l'impiété de votre pays et vous ferez une chose agréable à Dieu et conforme à notre expresse volonté. Carolus Imperator. Cette lettre de Charles Quint, qui sentait fort le monarque absolu, causa beaucoup d'étonnement dans Genève. Les citoyens ne niaient pas que l'empereur ne pût réclamer parmi eux une certaine suzeraineté puisqu'ils étaient ville impériale. Ils ont résisté à l'évêque-prince, ils ont résisté au duc. Résisteront-ils aussi à ce monarque puissant? Sa demande était claire, et quelques-uns disaient que s'opposer à ce grand prince serait pour une petite ville de marchands une véritable folie. Mais les Genevois n'hésitèrent pas, et sans faire de rodomontade, ils firent parvenir à l'empereur ce simple message. « Sire, nous entendons vivre, comme par le passé, selon Dieu et la loi de Jésus-Christ. » Charles Quint promit alors au duc de lui prêter main forte. Le pape lui-même se ravisa, se mit à chercher, malgré le refus fait à Casini, et trouva sous les ruines de son trésor un subside de 4 000 livres espagnoles. Les deux plus puissants personnages de la chrétienté unirent contre la petite ville leur influence, leurs excommunications, leur diplomatie, leurs ruses, leurs richesses, leurs soldats, et tout se prépara pour l'attaque préméditée.